Je vais tout de suite passer la parole à Fabienne Sanabria et à Jean-Pierre Dauzon, puisque malheureusement, Marc Auger a des gros problèmes de santé et ne peut pas être présent ce soir. Donc ça va peut-être décevoir une partie du public, mais nous avons Jean-Pierre Dauzon qui va le représenter. Et Fabienne et lui ont préparé une présentation, y compris avec Marc Auger lui-même qui a rédigé un texte pour vous ce soir, qu'ils vont nous présenter maintenant.
Bon, mille merci à Jean-Pierre Dauzon qui a accepté et le coup de téléphone qu'on a eu et avec Marc Auger qui a été président de l'école de haute études en sciences sociales ici à Paris, un grand et célèbre anthropologue qui nous a inspiré beaucoup, qui est venu en Colombie également comme Jean-Pierre. J'ai eu l'occasion de l'avoir dans un de mes cours. Donc, et c'est vraiment un grand plaisir et l'on va essayer de reprendre quelques éléments de ce qui a été traité ici dans ce dialogue, dans ce colloque, et à la fin on va lire un texte que Marc Auger généreusement a écrit pour nous tous et dans le contexte justement et de cette rencontre à propos de l'avenir. Il y a aussi un livre qui a été paru récemment de Marc Auger qui s'appelle « Où est passé l'avenir ?» et récemment un ouvrage aussi également qui s'appelle « Le temps sans âge » qui ce sont des sujets où il traite justement la question du futur, la question du temps. Bien évidemment, Jean-Pierre Dauzon, il est aussi collègue de Marc Auger, professeur, directeur de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales et à la Fondation Maison de Sciences de l'Homme, un grand africaniste. Et je me souviens, quand tu as été dans mon cours, on disait qu'il fallait et qu'il faut peut-être établir des liens et justement avec l'Afrique, entre la Colombie et l'Afrique plus proche, parce qu'il y a des racines extraordinaires entre nos cultures. Et surtout, je voudrais reprendre les éléments de la fin. Bien évidemment, après cette performance, il y a deux idées pour commencer, pour relancer et te passer la parole. Et je pense qu'un des grands historiens de religion, qui a été Georges Dumézil, disait que l'espoir est une corde. Et Mircea Eliade et Eliade reprennent cette idée de la corde, qui est un mythe ancien, et que l'on vient de voir justement cette possibilité de se détacher, même si l'on reste attaché. Et il y a aussi l'idée de la corde quand on élève une comète dans le vent. Un enfant, un niño elevando una cometa, peut-être ça pourrait être une image du processus de paix. Et tout à l'heure, on va bien voir comment Marc Auger nous parle du rituel et comment dans le rituel, il y a tout d'abord ce qu'il appelle la possibilité au milieu d'être en suspense en attendant un nouveau commencement. Mais avant de ce suspense, c'est une sorte de requête. On a trouvé la joie idéal, c'est la répétition, parce que dans un rite, on répète, on est en suspense, et plus tard, on essaye de fonder un autre commencement. Donc, Laura Ristrepo disait qu'il faut traiter les problèmes locaux d'une façon globale. Voilà, et donc, par rapport à la drogue et par rapport à la Colombie, on pourrait dire aussi, pour reprendre une des phrases du ministre Blanquer, que la Colombie ne peut pas rentrer en mondialisation ni en globalisation par la drogue et la violence et la guerre, mais qu'elle a essayé de rentrer en globalisation par la paix. Et c'est peut-être cet effort qui exige une persévérance folle, dirais-je, parce qu'évidemment, on a bien vu comme il y a des oppositions à la paix à droite et peut-être à l'extrême gauche également, mais il y a une volonté qui a fait écho et curieusement a fait écho plus au niveau international que même à l'intérieur du pays. Donc je passe la parole à Jean-Pierre Dauzon pour commencer à reprendre ces éléments et aborder tout de suite la question du temps, la question du futur qui nous touche à nous deux, nous sommes des anthropologues, et le temps est quelque chose qui nous préoccupe, qui nous traîne. On est rattrapé dans le temps, dans d'autres sociétés, et il y a une énorme liberté par rapport au temps, mais nous avons la contrainte des montres, la contrainte de l'horloge, et pourtant, il y a eu longtemps, des horloges de soleil qui inscrivaient des phrases telles que « Lucem demonstrat umbra ». Ça veut dire « Les ombres nous montrent la lumière ». Et hier, et ça c'est pour commencer, c'est l'ambiance dont je veux justement profiter, hier, dans tout le territoire de la Colombie, dans tous les quartiers, il y a une espèce de cérémonie, de rituel quotidien qui se fait tous les 7 de décembre et les 8. Le 7, c'est la veille d'une fête qui est la fête de la Vierge. Voilà. C'est un pays qui a eu une tradition aussi catholique, mais après cette tradition catholique, il y a un certain paganisme qui reprenne cette idée et on allume des bougies. C'est prendre velitas. Les Colombiens qui sont présents ici dans la salle peut-être ont eu hier la nostalgie de célébrer las velitas. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi allumer un cierge, une bougie? Pourquoi los alumbrados? Pourquoi un farolito? D'où vient ça? Quelle est cette confiance? À quoi? Pourquoi cet absurde-là? Alors commençons à parler de rites et reprenons ce qui a été dit d'une autre façon.
Bon, ben, je vais faire quelques petits commentaires par rapport à ce que j'ai pu entendre. Bien évidemment, ma connaissance de Colombie est limitée. J'ai fait la connaissance de ce pays il y a maintenant 18 mois. Cela dit, petite parenthèse quand même, à l'occasion de ce voyage que j'ai fait en Colombie, j'avais été frappé, c'était peu de temps avant le référendum, et j'avais été frappé à Bogota d'assister à une manifestation extrêmement importante, plus importante que ce qui avait été annoncé par les médias, hostile aux accords de paix. C'était une manifestation, comment dirais-je, qui était composée, ça m'avait marqué, de gens de classe moyenne, qui étaient, mais aussi de jeunes, de vieux, de toutes les catégories, et qui s'opposaient aux accords de paix. Et donc, il y avait là comme une sorte de presque de... Le référendum n'avait pas eu lieu encore, et donc je ne pouvais pas, bien sûr, anticiper un résultat pareil, mais ça m'avait intrigué, et je me souviens, mon ami Nelson Gomez, qui était là tout à l'heure, on était ensemble tous les deux, on faisait quelques commentaires, et on s'est inquiétés ensemble de la suite des événements. Voilà, donc c'était une petite observation, mais là, c'était un rituel, en l'occurrence, c'était une manifestation relativement importante, hein, qui avait lieu à Bogota. Et donc, on évoque la question de cette fête des bougies, comme on l'appelle, ou la fête des petites, ou des chandelles, hein, c'est comme ça ?
Exactement,
c'est des chandelles. Hein. J'ai aucune idée de quand elle date, mais il est évident. Est-ce que tu as une idée de quand elle date?
Bon, ça vient également, c'est une appropriation chrétienne.
Oui, d'un vieux rite
évidemment,
païen.
D'un vieux rite païen, évidemment. Il y a aussi l'idée très ancienne dans la maison romaine, et c'est de là qu'il vient le mot foyer. Le mot foyer vient du feu. Ouais. C'est-à-dire les cheminées, ce sont très importantes parce qu'il fallait garder toujours un feu dans les maisons anciennes romaines. Et le christianisme a repris l'idée des chandelles avec l'Immaculée Conception de la Vierge, dont Flaubert avait dit, je m'excuse de la glose, surtout devant Francisco de Roux, il a dit, c'était un coup de génie du christianisme d'inventer, mais dans le sens d'invenire, c'est-à-dire de faire jaillir ce qui était là par rapport à la Vierge Marie. Donc c'est très intéressant. Et à partir de là vient la fête des chandelas, de las candelas, et la Vierge de la Candelaria, tout à fait particulière, qui fête cette commémoration de bougies. Voilà.
On est face à un rituel de catholicisme populaire tel qu'il y en a eu. Bien sûr, il y en a beaucoup en Amérique latine, mais il y en a encore et quelques-uns en Europe. Hein. On n'est pas du tout à l'abri, je veux dire, de ce genre de rituel catholique très ancré dans le culte de la Vierge et quand même reste un culte tout à fait important en Europe, comme vous savez, aussi bien en Espagne, mais aussi en France, ce culte est très important. Alors... quelque chose quand même m'a marqué dans ce que j'ai entendu, c'est que le processus de paix qui s'est engagé est bien plus qu'un processus de paix. C'est-à-dire que quelque chose s'est mis en branle et on voit bien qu'au-delà des accords avec les FARC, hein, parce que bien sûr c'est de ça qu'on parle, on voit bien que à travers ces processus de paix, c'est ce que voulait dire le président hein, de la commission Vérité, il voulait dire très nettement que la Colombie est un pays qui est en train de muter, ou du moins qui essaye de muter, pour en quelque sorte faire une sorte de grand déballage hein, autour de ces accords de paix. Je dirais, je ne sais pas s'il faut employer ce mot véritablement, mais le déballage, c'est bien sûr, après tout, on dit, ça a été dit par quelqu'un aussi, la violence en Colombie est visiblement une violence structurelle. Elle est presque inaugurale, en quelque sorte. Et donc, du coup, bien sûr, on va dire, le conflit armé ou la guerre civile, ça commence il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais il n'est pas temps que quelque chose d'avant est en jeu. Alors, on voit bien que ce qui est en jeu, mais qui n'est pas le propre à la Colombie, c'est tout ce qui a trait à la conquête coloniale, à la colonisation de peuplement, à la situation des Amérindiens ou des Indiens, à la situation des Afro-Colombiens. On voit bien que la question des mémoires, ce n'est pas simplement la mémoire liée à la lutte armée des FARC. On voit bien que la question de la mémoire pose des questions plurielles à ce pays. Hein. Et on voit bien qu'en même temps, et ça a été aussi dit à plusieurs reprises par des gens, on voit bien que ce pays est face à ses propres, défauts structurels qui sont liés à la manière de gouverner. On a parlé de la corruption, on a parlé surtout de la question des inégalités, mais au sens à la fois régional, territorial, mais aussi bien sûr entre les populations, entre les classes sociales. Et on se demande même s'il n'y a pas eu un creusement des inégalités. Et donc, on voit bien que la question du processus de paix pose toutes ces questions.
Hein, exactement.
Et pose toutes ces questions.
Et il y a aussi, par rapport à ça et par rapport au FARC, une fois le FARC dépose les armes, laisse les armes, alors on n'a plus un bouc émissaire et il faut s'occuper d'autres problèmes structurels du pays. Et ça, c'est très intéressant.
Absolument. Absolument. Et je crois que, en effet, si ce processus de paix réussit, mais on voit bien que les difficultés vont être innombrables, mais si au bout du compte ce processus de paix réussit, ça ne sera pas qu'une réussite du processus de paix. Ça sera la réussite d'un pays, hein, là, dans sa totalité, qui aura réussi à au moins mettre sur la table, je ne dis pas qu'il aura résolu tous les problèmes, parce qu'on ne résout pas tous les problèmes comme cela, mais qu'il a réussi à mettre sur la table, à mettre tous les problèmes qui se sont accumulés au fil, je dirais, des siècles. Hein, ce n'est pas d'affaire. Et donc, je suis très admiratif, en effet, du président de la commission de la vérité qui lui-même a dit tout cela et donc pèse sur ses épaules un fardeau énorme. Mais c'est un fardeau dont on a envie de se dire que c'est un fardeau drôlement enthousiasmant, hein, et parce qu'il y a là un gageur hein, pour lui, mais pour les gens qui sont autour de lui, pour en effet petit à petit, au-delà de l'accord avec les FARC, au-delà du fait de faire entrer les FARC dans la vie politique, hein, institutionnelle, c'est cela l'accord hein, en gros, et puis le fait qu'ils ne vont pas devant les tribunaux, ou en tout cas pour une bonne part d'entre eux, eh bien, au-delà de ça, il faut parler d'autre chose. Il faut parler d'autre chose, ce dont les FARC est eux-mêmes le symptôme, on pourrait dire aussi bien. Donc, je trouve qu'il y a là une sorte de maturation et de maturité hein, très grande. Et c'est sans doute pour cela que... il y a autant d'intérêt. Hein. Moi, je dois dire que je suis, comme tu l'as dit, je m'intéresse à l'Afrique où il y a des pays qui ressemblent.
Exactement.
Donc, on a évoqué le Rwanda tout à l'heure. Moi, je connais très bien d'autres pays, la Côte d'Ivoire en particulier, qui aujourd'hui est dans une situation où elle n'arrive pas à régler ses problèmes. Hein. Il y a eu une quasi-guerre civile pendant une durée beaucoup plus courte, mais elle n'arrive pas à régler ses problèmes. On voit bien qu'elle n'a peur d'affronter des vérités en face. Hein. Et donc on voit bien qu'en Afrique, on a des situations semblables, et moi je suis habitué à cela, mais j'ai découvert en effet depuis peu cette Colombie que je ne connaissais pas, et ça m'intéresse, me passionne énormément, comme bien d'autres. Hein. Et avec quelques amis, Yvon Lebotte et d'autres, maintenant je me suis presque fait une culture par rapport à cela, ce qui fait que je suis assez presque familier des noms, Santos, Oribe, etc. Et donc je comprends les enjeux, en quelque sorte, tout en n'étant pas du tout un spécialiste. Un autre point.
Il y a un risque qu'il faut surtout pas oublier, parce que on utilise souvent la catégorie de post-conflit. Et bien sûr, cette catégorie, peut-être qu'il faut l'utiliser entre guillemets, parce que nous le savons en tant qu'anthropologue, sociologue, le conflit est quelque chose de fondateur des sociétés.
Bien sûr.
Le problème, c'est de traiter les conflits avec les voies armées, avec les voies de la violence en permanence. Et donc, ce que l'on a essayé de retirer un petit peu, c'est de savoir qu'il faut traiter autrement le conflit.
Voilà,
et ça,
absolument.
C'est tout à fait important. Mais il y a le risque de rater. C'est après la signature des accords de paix comme au Salvador. L'expérience du Salvador doit nous éclaircir à nous, Colombiens. Parce qu'évidemment, il y a eu la signature, mais après également passe un peu ce qui s'est passé en Colombie. Pourtant, je dirais que nous avons besoin, et là je veux faire une glosse à la France et à la communauté européenne, parce que grâce au soutien international, le pays peut persévérer. Mais on a besoin, et les saisons croisées, je pense que justement se sont établies. Il y a eu l'accord entre le président Hollande et le président Santos, et du côté colombien, c'était pour avoir cette volonté d'être disposé à tourner les pages de la violence. Et c'est ça la nouveauté de la Colombie. Et là, la Colombie en tant que pays voulait rentrer en globalité, en mondialisation, à travers une volonté de paix. Cette volonté de paix est une responsabilité de la société civile et elle n'appartient plus seulement, exclusivement au gouvernement. Elle appartient à la société entière. Et les dérives de ce processus sont une responsabilité de l'avenir du pays. Autrement dit, il y a une sorte de possibilité d'un avenir possible, un homme politique, et c'est lui qui give me a dream, qui nous donne un rêve. Voilà, ça c'est la question, ça Santos l'a fait très bien, donc il a son prix Nobel de la paix, c'est extraordinaire, on l'a reconnu également ici à la Sorbonne, et en faisant son éloge, c'est le ministre Blanquer qui a fait l'éloge du président Santos de ce courage extraordinaire, même contre sa classe sociale, à la classe dirigeante, à laquelle il appartient. Donc il y a la possibilité d'un futur. À partir de cette possibilité, nous les Colombiens, la société entière ne peut pas rater ce futur, cet avenir. Donc c'est un peu comme ça. Je voudrais, quand je regarde, même dans les quartiers les plus éloignés, les plus populaires, cette sorte de confiance. Il faut confier et il faut restaurer la confiance. Parce qu'il y a beaucoup de t-shirts que l'on porte toujours qui disent « Vive la Colombie !» Mais je ne trouve pas des t-shirts qui disent « Vive le Colombien, un Colombien, le voisin, l'autre. » Donc ça, c'est une question tout à fait importante. Et après, l'on voit bien, il y a eu les enjeux de la mémoire, les enjeux politiques, etc. Mais le rôle de l'art. Le rôle des artistes, le rôle de raconter autrement, à travers plusieurs récits, ce qui s'est passé et ce qui peut se rétablir, cette histoire qui peut se réécrire autrement. Et ça, c'est extrêmement important, parce que Marc Auger, on va le voir tout à l'heure, il nous rappelle à Paul Ricoeur, dans ses célèbres ouvrages de temps et récit, nous avons besoin de nous raconter autrement, de nous dire autrement, même si l'on peut dire, et là je le dis en espagnol parce que c'est tellement vite que je ne peux pas le traduire, nosotros vivimos de escándalo en escándalo en escándalo en escándalo en escándalo y de cuento en cuento y de cuento en cuento y de cuento en cuento y el último cuento que nos contamos es la paz. Alors il faudrait que cette nouvelle tienne la route. Donc je te passe la parole et l'on va lire le texte de Marc Auger après. Et on va le lire à deux voix. C'est très simple, ce sont 6 paragraphes. Mais là, je trouve la sagesse d'un grand-père. Je pense que c'est ce qui nous lie, l'amitié. Oui, oui. Et surtout en reconnaissant Marc Auger et son abuelo. Et il faudrait aussi, et là, je vais faire une sorte de lien entre les jeunes et les grands-pères. Je pense qu'il faut parler aux grands-pères qui se sont fatigués de se battre, comme en Afrique, comme ailleurs, et parler aux plus jeunes, aux petits-enfants, de même que la Commission de la vérité, et Pacho de Roux est quelqu'un qui connaît très bien les victimes en Colombie, ce sont comme les grands-pères et comme les enfants. Et ce sont les victimes, dans le 99% qui sont prêtes à pardonner. Et parfois, les gens qui habitent dans les quartiers les plus riches, les plus aisés, ils disent non, ils veulent la vengeance et la haine. Et bien sûr, il y aura des hommes politiques qui vont instrumentaliser la vengeance et la haine. Et c'est là qu'il faut conjurer aussi. Donc, je te passe la parole et on va lire le texte afin que le public ne s'ennuie pas avec notre bavardage, notre papotis.
Voilà, on va directement, je crois, au texte de Marc Auger. Mais simplement, j'étais aussi frappé d'une chose, mais moi-même maintenant je le vis, c'est que, d'une certaine façon, le ministre Jean-Michel Blanquer en a témoigné lui-même directement, c'est qu'il y a en effet quelque chose. On est dans l'année France-Colombie, d'accord, mais il y a quelque chose en effet qui... Il y a du lien entre nous, je veux dire entre la France et la Colombie. Et ce lien, alors, d'une certaine façon, Marc Auger l'incarne lui-même, puisque comme tu le sais et que tu l'as dit, au départ, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux sociétés africaines. Il est africaniste, comme moi je le suis, etc. Et ses textes ont été traduits énormément en espagnol, mais il a eu des échos en Amérique centrale au Venezuela, mais aussi en Colombie énorme. Et donc, il y a là une pensée qui s'est fabriquée entre Afrique, France et Amérique latine, qui est très intéressante. Et donc, ça participe de ce que Jean-Michel Blanquer disait, entre, d'une certaine façon, il y a là où est son compagnon, dont le nom m'échappe, où il y a une sorte de rapport à la fois affectueux, où on se chahute un peu, etc. Et je trouve ça très, très intéressant et que je découvre moi-même avec un plaisir très grand. Alors maintenant, nous allons lire le texte de Marc Auger. Je vais le commencer, toi, tu vas le suivre. Et puis, alors, il s'intitule, et donc c'est par ce texte d'espoir, en quelque sorte, qu'on va finir, il s'intitule « L'histoire et l'espoir ». Alors, je commence le premier paragraphe. Un immense espoir soulève aujourd'hui la Colombie et spécialement la jeunesse colombienne. On célèbre le premier anniversaire des accords de paix conclus entre le président Santos et les FARC. Pour l'occasion, le président Santos et Timochenko, le chef des FARC, FARC buté en partie politique, se sont retrouvés au théâtre Colonne de Bogota. Certes, les difficultés sont là et la partie n'est pas encore complètement gagnée, mais on a néanmoins le sentiment que quelque chose d'irréversible s'est mis en place. La présence de Pepe Mujica, ex-président de l'Uruguay, et de Felipe González, ex-président de l'Espagne, à la tête du comité de suivi des accords, est un symbole fort. Cette année, la fête des bougies et El Dia de las Velitas va briller d'un éclat particulier. Tu faisais référence au rituel, et en effet, lui, il fait référence nettement, et il dit une chose très importante, après je te laisse le dire.
Tout rituel, on le sait, répète et inaugure. Et il est d'autant plus réussi qu'il parvient à donner aux célébrants et aux assistants la certitude qu'il ouvre véritablement une époque inédite. C'est bien le cas en ce 8 décembre où nous pouvons croire que la Colombie va rentrer dans un âge nouveau. La fête de la Vierge et de l'Immaculée Conception peut voir sa finalité évoluer.
Pour que cet âge nouveau arrive, quelques conditions sont nécessaires. Il faut tout d'abord que les Colombiens parviennent à concilier le devoir de mémoire et l'obligation de savoir oublier. À cet égard, l'expérience anthropologique nous enseigne que mémoire et oubli fonctionnent ensemble. Et l'on peut penser que l'apaisement pourra naître de ce mixte de mémoire et d'oubli, dont, avec le temps, est fait le souvenir. L'oubli donne sa forme à la mémoire, comme la vague au rivage.
Je rappellerai ici, avec Paul Ricoeur, à l'heure où la parole se libère en Colombie et où, notamment, une jeunesse cultivée peut exprimer ses désirs d'avenir, que nous vivons tous nos vies comme des récits. Ceux-ci se conjuguent selon trois formes, le retour, le suspense et le commencement ou le recommencement, qui valent pour la collectivité et pour les individus, et que nous voyons à l'œuvre aussi bien dans les propos singuliers que dans le scénario rituel ou dans la création littéraire. Le retour, selon la formule de Proust, c'est la joie du réel retrouvé que la création littéraire permet exceptionnellement d'éprouver. Le temps suspendu, c'est l'interruption du cours ordinaire de la vie sociale, comme par exemple dans l'expérience du voyage, l'on pourrait dire de l'errance, dont on a parlé Libia et Laura. Le commencement est la finalité de toute activité rituelle dont l'ambition est de créer les conditions d'une nouvelle naissance. La relation au temps se pense toujours au singulier pluriel et rapproche les récits individuels des récits collectifs.
On peut espérer que dans un pays comme la Colombie, où les violences de l'histoire sont toujours sensibles, la richesse de la réflexion individuelle sera toujours un obstacle aux éventuelles tentatives de récupération et plus largement aux effets parfois délétères des fictions médiatiques. La jeunesse, en outre, a de nouveaux chantiers qui s'offrent à elle. Il y a des régions en Colombie dans lesquelles les besoins sanitaires et alimentaires sont pressants. On peut espérer que la conscience des besoins du pays échappe à des considérations trop étroitement politique et ouvre la voie à des initiatives originales dans le domaine de l'assistance et du développement.
Plus largement, on peut considérer que l'expérience de la Colombie peut aujourd'hui constituer un atout en lui imposant de penser l'avenir. Dans beaucoup de pays, en effet, on a tendance à vivre sous l'influence de l'environnement médiatique, dans une sorte de présent perpétuel, non orienté, qui éloigne toute perspective historique. Ce n'est pas le cas dans ce pays, et on peut augurer que la référence à l'histoire y est assez constante pour donner à son avenir le goût d'inachevement qui le rend possible.
Que les bougies
du 8 décembre 2017
marquent l'entrée
dans une nouvelle ère de lumière en Colombie et dans le reste du monde. Merci beaucoup.